Alors donc aujourd'hui on va s'occuper de la question des firaq, c'est-à-dire des différents groupes théologiques de l'islam essentiellement, et de voir un petit peu comment ces groupes, on va dire, dialoguent ou gravitent autour de ce qu'on peut appeler l'orthodoxie actuelle. Et c'est notamment pour cette raison que nous avons créé avec Fakir la RIM, c'est pour de redonner droit de cité à une diversité, c'est-à-dire dans un islam qui aujourd'hui a du mal quand même à accepter la diversité théologique, le fait de créer une association sur le moutazilisme nous permet de dire qu'il y a autre chose qui existe en islam, on n'est pas uniquement dans... et donc c'est-à-dire de ne pas de vraiment faire comprendre aux gens qu'il y a une diversité théologique de fait qui existe depuis les débuts de l'islam. Donc faire ressurgir cette mouvance est là essentiellement ce but d'accepter le pluralisme. Donc nous ne voulons pas que le moutazilisme devienne la nouvelle orthodoxie, c'est pas la question. Simplement de proposer autre chose, de proposer des chemins différents. Le problème en fait qui se pose aujourd'hui en islam, mais qui se pose depuis plusieurs siècles, c'est que les courants dits minoritaires, au niveau du point de vue du nombre, sont en général mis sur le banc un petit peu de la communauté musulmane, souvent par peur de la fitna, de la guerre interne. Et je vois très souvent un peu un chantage à la fitna. C'est-à-dire, si vous commencez à semer un peu la discorde au niveau théologique, on va vous accuser tout de suite de semer la division, le trouble au sein des musulmans, et en général, ça pose très souvent problème. Et le souci de cette réaction, c'est que ça empêche toute discussion, tout vrai débat, où on pourrait pourtant discuter calmement de toutes ces questions qui sont fondamentales et auxquelles il ne peut pas y avoir une seule réponse, de toute façon, une seule vérité. Alors, la plupart du temps, ceux qui choisissent une autre voie que l'orthodoxie classique sont fréquemment qualifiés d'hérétiques ou de mécréants qui chercheraient donc à semer le trouble. Alors je pense qu'aujourd'hui, il nous faut vraiment revenir à une bienséance dans la divergence, c'est-à-dire la possibilité vraiment de débattre, de questionner, d'être dans une attitude de dialogue, sans systématiquement s'insulter et se manquer de respect. Alors ce refus de la divergence et de la pluralité fait aussi que l'interprétation personnelle des textes est très souvent aussi rejetée. C'est-à-dire qu'on a peur de laisser l'individu un petit peu aussi penser par lui-même à la lecture des textes, par peur justement qu'il un peu invente son propre islam différent de ce qui se passe ailleurs. Donc finalement, l'islam se retrouve dans un paradoxe permanent, c'est-à-dire depuis les débuts, on a une diversité, une pluralité de fait, mais aujourd'hui, elle n'est absolument pas reconnue finalement comme légitime et comme pouvant faire fructifier des éléments intéressants pour les musulmans. Alors pourtant, la tradition prophétique a mis en valeur cette diversité. Vous avez deux hadiths assez connus hein, qui traitent de ce pluralisme en islam. D'abord, le plus connu, je dirais, les différences qui dit la chose suivante, donc le prophète aurait dit « Les différences d'opinion dans ma communauté sont une miséricorde, une rahma ». Donc on a ici un premier hadith hein, qui montre que le pluralisme est un bienfait divin. Et d'ailleurs la racine hein, de l'ahma, je rappelle, hein, qu'elle renvoie aussi à la matrice, à l'utérus. C'est-à-dire que le pluralisme non seulement ne risque pas de faire mourir l'islam, mais au contraire qu'il serait capable de faire germer quelque chose de nouveau et de créer de nouveaux éléments. Vous avez une deuxième tradition qui est un peu plus problématique parce qu'elle a été très souvent détournée par tous les courants en fait, théologiques de l'islam. C'est la suivante. La communauté musulmane se divisera en 73 groupes, les filarq, et tous iront en enfer sauf un. Et justement, la question, c'est de savoir quel est le groupe qui n'ira pas en enfer. Alors, elle est assez intéressante, cette tradition, parce que finalement, elle est ambiguë, mais elle est ambiguë parce que, justement, certains ont voulu y voir nécessairement leur propre groupe théologique aller au paradis. Donc, vous avez des Hanbalites qui, on peut dire, que seuls les Hanbalites iront au paradis, etc. Donc, cette tradition, elle est très intéressante, justement, dans la manière dont elle a été instrumentalisée par la suite. Et il y a une interprétation, moi, qui m'a toujours attirée, c'est celle de Souleyman Bachir Diagne, qui est un philosophe assez connu hein, de l'islam, et qui a proposé une autre interprétation beaucoup plus large de cette tradition. Alors, je vous cite une partie de son livre. On peut dire que d'entre les 73 factions dont parle la tradition, celle qui sera sauvée est la 74e. La faction qui se situe en dehors de toutes les autres, cette secte au-dessus des sectes qui n'existe que virtuellement, est celle constituée de tous ceux qui, tout en étant membres de l'une des 73, savent sortir d'eux-mêmes et d'une représentation à la fois carcérale et exclusive de l'appartenance. La secte qui sera sauvée est celle qui sait accueillir la différence et dont les membres peuvent se trouver dans chacun des groupes. Seuls s'interdisent le salut ceux qui ont précisément de la différence une vision dualiste radicale, manichéenne, qui n'est pas avec moi et rejetée dans les ténèbres extérieures. Donc ici, vraiment, Souleyman Bachir Diagne montre la nécessité d'être toujours dans la double appartenance, c'est-à-dire à la fois une appartenance générale, qui accepterait justement la diversité des avis et des opinions, et à la fois la possibilité aussi d'appartenir à une seule école et de choisir un petit peu une voie spécifique. Donc cette interprétation, elle permet vraiment de reconnaître que le pluralisme est une force à la condition que les groupes qui composent l'islam acceptent que les autres existent et soient considérés comme pleinement musulmans. Et en plus, cette interprétation, je dirais qu'elle évite aussi de retomber dans l'inverse, c'est-à-dire le relativisme. Le relativisme, il s'agit un petit peu d'accepter tous les groupes, hein, quelles que soient un petit peu leurs opinions. Là, non, en fait, parce que sont disqualifiées nécessairement toutes les interprétations intolérantes. Donc ça permet déjà de se fonder sur quelque chose de beaucoup plus, plus intéressant. Tu pourrais fermer la porte ?
Je me suis dit peut-être qu'il y a plein de gens qui...
Alors, il faut aussi savoir que les Moutazilites, dans le passé, ils n'ont pas échappé non plus à cette dérive du refus de la pluralité, puisque, encore une fois, le calife Al-Ma'moun et ses deux successeurs ont imposé aussi, quelque part, une seule manière de concevoir le Coran. Donc, finalement, cette erreur est cruciale, a finalement aussi causé ensuite la perte du Moutazilisme. Donc aujourd'hui, le but n'est plus de supprimer l'altérité en islam, au contraire, le but est beaucoup plus d'essayer de la rétablir. Et comme un autre moyen aussi de vivre l'islam. Alors simplement, je présente rapidement, je rappelle toutes les divergences théologiques qui ont pu exister, alors sans rentrer vraiment dans les détails, mais en m'attardant sur les questions théologiques et aussi politiques qui se sont posées au fur et à mesure, au début de l'islam, hein, et ces divergences sont en général éclos en raison de différentes réponses apportées à ces questions. Donc d'abord, la première question qui s'est posée, c'est comment on gouverne la cité, comment la politique et le gouvernement des hommes devaient être conçus. Alors vous avez plusieurs réponses qui ont été apportées, celle des Khalidjites, qui ont prôné pas mal un certain égalitarisme politique et social, notamment le refus de la discrimination entre arabes et non-arabes. Très souvent, les Khalidjites, au début, étaient des persans. Certains ont même accepté l'imamat des femmes. Ensuite, les Khalidjites aussi avaient une conception particulière de la révolte. Ils considéraient la révolte comme étant légitime si le souverain était injuste et si le souverain était considéré comme quelqu'un de non-pieux. Celui qui gouverne donc, est celui qui en est capable, celui qui est pieux, moralement et religieusement irréprochable. Donc, ce qui implique aussi pour chaque croyant, d'un point de vue individuel, d'appliquer le commandement coranique, Amr bil Ma'ruf, c'est-à-dire ordonner le convenable, pour chaque musulman qui se comporte selon la loi divine. Ensuite, autre réponse à cette question du gouvernement des hommes, c'est celle du chiisme. qui considèrent la révolte aussi légitime contre le souverain injuste chez les plus activistes, mais également aussi chez les plus quiétistes, je dirais, la pratique de la taqiya pour éviter les persécutions, et justement la pratique plutôt d'une neutralité en fait chez certains chiites, comme les imamites au cours de certaines dynasties. Et celui qui gouverne, par contre, doit être issu des Ahl al-Bayt, c'est-à-dire ceux qui étaient issus de la dynastie de Ali. Ensuite, l'attitude du moutazilisme a plutôt prôné une certaine neutralité politique, alors sauf dans les épisodes où les moutazilites se sont alliés au pouvoir, où là, il y a eu des collusions assez fortes, mais une partie des moutazilites ont largement refusé, en fait, cette alliance au pouvoir, notamment les soufis moutazilites, qui refusait totalement, par contre, de s'allier de quelque manière au pouvoir. Le sunnisme, ensuite, la dernière réponse, je dirais, à cette question, c'est plutôt la réponse du sunnisme et du mourgisme, qui, eux, étaient plutôt dans une attitude de loyauté au souverain en place, quelle que soit sa tyrannie, quelle que soit sa manière de gouverner. Donc là, on est plutôt dans une attitude de quiétisme, c'est-à-dire de laisser un petit peu faire à partir du moment où l'ordre, en fait, continue à régner dans l'État. Deuxième question qui a divisé les écoles théologiques de l'islam, c'est la question du libre-arbitre et de la prédestination. Alors, pour cette question du libre-arbitre et de la prédestination, vous avez deux manières, en fait, d'aborder cette question. C'est le décadarite et des moutazilites. C'est-à-dire qui étaient les partisans du libre-arbitre, et inversement, du côté du sunnisme, où il y a eu un rejet de cette liberté, cette responsabilité de l'être humain, à travers le principe de la prédestination. Ensuite, troisième question importante, c'est la question de la foi, des actes, et la question de la dénomination de la mécréance et de la faute. Donc ça, cette question, je dirais, c'est peut-être la principale qui a fait couler le plus d'encre. Alors la réponse des khalidjites, les actes ont beaucoup d'importance dans la foi. Les khalidjites rejettent totalement la justification par la foi et sans les œuvres. Il y a, du coup, en découle un fort inégalitarisme spirituel. C'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu que socialement, il y avait une volonté d'égalité sociale, mais au niveau de la spiritualité, il y a un fort rigorisme moral au point de refuser le titre de croyant à quiconque a commis un péché majeur, en le mettant sur le même pied que le murtad, c'est-à-dire l'apostat. Et la branche la plus radicale qui est née à la fin du 7e siècle chez les Khalidjites, ce sont les Azrakites, qui, eux, en fait, l'infidèle ne peut plus rentrer dans la foi, et ça justifie le droit de le tuer pour cette apostasie, justement. Donc il n'y a aucune possibilité de repentance hein, dans ce cas-là. Mais par contre, les Khalidjites se sont aussi distingués en reconnaissant comme leurs égaux les non-musulmans. Donc là, par contre, il y a une certaine... une différence hein, par rapport à d'autres courants. Ensuite, la position des moutazilites et une partie des chiites, imamites notamment. Alors, pour les moutazilites, les actes ont beaucoup d'importance aussi dans la foi, un petit peu aussi comme les khalidjites. Mais il y a quelques différences, notamment à travers l'un des principes moutazilites, la promesse du paradis et la menace de l'enfer. S'il n'y a pas eu repentance de la part du croyant, l'enfer sera éternel du côté des moutazilites. Et pour les moutazilites, il y a aussi un autre principe qu'on appelle la demeure intermédiaire sur le jugement donc, des actes du croyant. Et les incroyants devraient affronter la damnation au jour du jugement, mais les musulmans ayant commis un péché grave sans se repentir sont également menacés du feu éternel de l'enfer. Mais il y a possibilité, le temps entre le péché en fait, et la repentance, d'être dans une demeure intermédiaire, c'est-à-dire le temps que le croyant puisse faire aussi acte de repentance. Donc en fait, les moutazilites se sont distingués des khalidjites, en étant un petit peu moins brutaux de ce point de vue-là, et en acceptant la repentance comme possibilité de revenir dans la foi. Et ensuite, dernière réponse à cette question de la foi et des actes, ce sont du côté des mourgites, aussi des acharites, des maturidites et aussi des chiites ismaéliens. où là, c'est la foi qui est plus importante que les actes. Il y a une notion de, chez les Mourjites, de suspension du jugement, c'est-à-dire par les hommes, le jour du jugement dernier. Le temps du jugement dernier. Donc il y a un refus en fait du jugement des actes par les hommes. Et ce que disent notamment ces différentes écoles, c'est qu'aucun croyant ne doit s'attendre à un châtiment éternel en enfer. Sa propre foi et l'intercession du prophète lui garantissent qu'au pire, il devra subir un châtiment temporaire en enfer pour finalement entrer au paradis en raison de la foi et non pas des actes. Donc voilà pour cette grande question, je laisserai Fakir détailler si besoin. Ensuite, une autre grande question, ça a été la nature du Coran, c'est-à-dire est-ce qu'on considère le Coran comme éternel et incréé ou comme créé. Donc là, le sunnisme a tranché le débat en disant que le Coran était éternel et incréé, alors que les Moutazilites, hein, mais aussi certains courants du chiisme et du religisme, considèrent que le Coran, au contraire, est créé. Donc je ne reviens pas sur cette question, on l'a déjà beaucoup abordée précédemment. Et ensuite, avant-dernière question, c'est la place accordée à la raison humaine et la classe accordée aux traditions, donc à l'imitation, le taqlid, et aussi la place apportée du coup au hadith. Alors du côté du moutazilisme, et aussi une partie du chiisme, et dans la charisme, mais la charisme dans une certaine limite, il y a un usage autorisé dans la théologie de la raison et de la dialectique qu'on appelle le kalam, donc la réflexion théologique sur le Coran et sur Dieu. Alors pour les moutazilites, les hadiths notamment ne doivent pas contredire le Coran. Ils doivent être en accord avec la raison. Donc ces éléments-là font que les moutazilites ont retenu très peu de hadiths en fait au cours de l'histoire. Inversement, donc j'ai mis quelques réserves par rapport à la charisme, hein, parce qu'il y a aussi la limite de la raison humaine qu'on considère comme justement faillible par rapport à la révélation. Le hanbalisme, au contraire, a un fort rejet de la raison, donc tout ce qui vient de l'esprit humain doit au contraire être écarté. Les hanbalites sont connus pour être partisans des hadiths, des partisans du littéralisme, et un rejet catégorique de l'avis personnel des juristes dans la jurisprudence islamique. Enfin, il y a une dernière approche de tous ces éléments-là, c'est l'approche du soufisme et du chiisme ismaélien, où c'est un usage d'une raison, mais qui est pas celle du kalam, pas celle qui est dialectique, je dirais très cartésienne finalement, hein, très analytique, mais l'usage d'une raison plus intuitive, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus synthétique. La raison dialectique est acceptée, hein, dans le soufisme, mais elle a ses limites, et on va parler plutôt de supra-raison, c'est-à-dire d'un accès en fait par le croyant à un monde imaginal, suprasensible, avec aussi une grande importance accordée à l'expérience divine pour justement rencontrer Dieu au-delà en fait des mots et des concepts. Donc il y a un accès à Dieu qui est possible non pas par les mots, par le discours, mais par un effet de grâce divine finalement et de dévoilement qu'on appelle le kashf du côté du soufisme. Donc voilà les trois, vraiment très, de manière très synthétique, les trois manières de concevoir cette raison et du coup la tradition. Et dernier élément, et là je fais très rapide, c'est comment les pieux prédécesseurs, les compagnons du prophète et les premiers califes ont été considérés. Donc là aussi il y a eu des divergences entre les écoles. Du côté du sunnisme, il y a un respect absolu des compagnons et des premiers califes. Du côté du khalidisme et du chiisme, hein, il y a eu à certains moments de l'histoire, hein, la remise en cause des compagnons du prophète et également des premiers califes. Donc il y a eu aussi beaucoup de divergences théologiques à ce niveau-là. Voilà.
Merci beaucoup, Eva. Merci. Alors c'était très intéressant parce qu'on a pu voir comme ça une sorte de... On a un peu balayé, balayé l'histoire. Non mais c'était très important parce que ça nous a permis aussi d'avoir une idée. Après, c'est clair que comme ça, on balaye, quoi. Donc on a une idée à peu près sur quoi les débats ont porté, c'est-à-dire sur quoi il y a eu des désaccords et sur quoi des écoles ont été fondées. Même si je reviendrai peut-être aussi sur l'aspect politique, c'est-à-dire qu'au début les scissions, les divergences étaient politiques, et ensuite cet aspect-là politique, finalement, on peut avoir le côté on peut lire les événements de manière un peu éloignée et dire, bon, en fait, au début, c'était politique. Après, ils ont voulu... chaque groupe a voulu trouver une légitimité pour revendiquer le titre et être celui qui est le plus juste. Mais aussi, on peut réfléchir et penser et dire que finalement, derrière nos revendications politiques, il y avait aussi une Weltanschauung, c'est-à-dire une représentation du monde. Quelle représentation du monde avec, quelles sont les implications de ça? Qu'est-ce qu'on comprend du Coran? Qu'est-ce qu'on comprend de la révélation? Comment on comprend la mise en application aujourd'hui, maintenant, enfin aujourd'hui, à leur époque c'était aujourd'hui, comme nous aujourd'hui on se pose la question, hein, de toute manière. C'est-à-dire, comment notre vision politique, d'où elle vient cette vision politique, quels sont les tenants, les aboutissants, quelles sont les implications, et les implications religieuses et spirituelles. Donc mettre en bout tout ça, et tout ça finalement, même si au départ la dispute commence sur une question politique, ou parfois sur des questions de détail, finalement, c'est comme le petit fil, vous savez, de laine qui tire, en fait, et on arrive à d'autres questions, et vraiment une question qui est beaucoup, beaucoup plus globale. Alors moi, ce que je vais faire, je vais essayer plutôt d'aborder... Alors c'est pour ça que ce qu'a fait Eva, là, était vraiment très important, parce que c'est vraiment pour qu'on puisse avoir une idée de d'où on parle et de quoi on parle. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'essayer d'avoir un éclairage qui est plutôt contemporain, maintenant. Maintenant, ça ne veut pas dire que ces événements-là n'ont aucune importance, parce que les débats qui ont lieu aujourd'hui, ils sont tous liés à ces questions-là et à ces événements-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment on peut avoir une lecture des firaq, c'est-à-dire des firqa, d'ailleurs, le mot veut dire à la base, vient de la question de la distinction, de la séparation, en fait. Et quand on parle de firaq, on parle des distinctions, j'exagère peut-être un petit peu, mais on pourrait dire des distinctions. Alors qu'en français, c'est intéressant, parce qu'on parle de groupe. On parle de groupe, alors qu'on parle de distinction en arabe. Donc, comment aujourd'hui l'accepter? Comment accepter les firaq? Je vais partir d'une réflexion sur le Coran. Alors, dans le Coran, les versets qui font référence à la divergence et à la diversité d'opinions, etc., au désaccord, il y en a une multitude. Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a beaucoup. Autant des divergences qui ont eu lieu dans le passé, dans les récits relatifs à Moïse, etc., donc dans le passé, mais aussi dans des références à ce que pouvait connaître le prophète lui-même. Alors moi, je me suis attardé sur trois versets. Juste, je vais prendre trois versets, parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans le Coran, on voit que toutes les diverses, enfin toutes, peut-être presque toutes, par mesure, par... nuance, on va dire, presque toutes les divergences ont été prises en considération. De quoi je parle? Je parle de divergences, là on parle de divergences d'opinion, on ne parle pas de différence. Les divergences entre les gens, entre les musulmans et les Kitab, les gens du livre, mais aussi entre les croyants eux-mêmes. Je dis croyants exprès parce que, en fait, quand on lit le Coran, le mot croyant renvoie à quelque chose de plus ample, peut-être, que la compréhension qu'on en a aujourd'hui, où on associe croyant à musulman. Bon. Les trois versets sont ceux-là. Vous avez le premier verset que j'ai pris, que j'ai choisi, parce qu'on pourrait en prendre d'autres, hein. Ils ne sont pas du tout exhaustifs, hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. J'ai pris celui de la sourate 11, sourate Hud, le nom d'un prophète. Alors, je vous l'ai dit directement en français, on a vraiment en français, je vous l'ai dit en français. Je vous dis maintenant, le français, j'ai pris la traduction de Jacques Berck, celle que je préfère. Donc, dans la sourate en français, donc, si ton Seigneur l'avait voulu, il aurait fait de tous les humains une communauté unique, alors qu'ils persistent dans leurs différences. Dans leurs différents, pardon. Donc, je ne sais pas s'il y a des arabes. Allez, je suis quand même tenté de la dire en arabe. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ.
Le numéro du verset, c'est...
Pardon. Numéro du verset, ah, je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est 11. Non, c'est très bête, je ne l'ai pas noté. Oh là là, la boulette. Je ne sais plus, mais je crois que c'est dans les...
Yezeluna,
c'est pas Yezeluna? J'ai noté Yezeluna. Bon,
parce
j'ai mal recopié.
Avant, sur le plan grammatical, ça arrête nous,
ouais. D'accord. Dans ce cas, c'est le premier verset. Je cite les deux autres versets, puis après on va en discuter. L'autre verset, c'est dans la sourate al-Hujurat, les appartements. Mm-hmm. C'est le verset 49, alors 9, verset 9 de la sourate 49, c'est là que je l'ai noté. Et il dit, Si deux parties d'entre les croyants se combattent, eh bien, ce qui est intéressant, c'est deux parties entre les croyants. Se combattent, eh bien, réconciliez-les. Si l'un d'eux avait commis un passe-droit au détriment de l'autre, combattez le coupable jusqu'à ce qu'il fasse retour au commandement de Dieu. Alors, s'il fait retour, eh bien, réconciliez-les. Réconciliez les uns et les autres dans la justice. Soyez équitables. Dieu aime ceux qui opèrent dans l'équité. Et dernier verset. Alors, cette fois, je ne dis pas en arabe parce que j'ai peur de me tromper. Alors, je vais dire directement en français. Le troisième verset, c'est de la sourate Toujours des appartements, 49, mais sourate 13. Et il dit, et celui-là il est vraiment, je pense qu'il est aussi très connu parce qu'on l'entend souvent à la radio, pour ceux qui écoutent les radios en arabe, arabophone. Humains, nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle. Si nous avons fait de vous des peuples et des tribus, c'est en vue de votre connaissance mutuelle. Le plus digne au regard de Dieu, c'est celui qui se prémunit davantage. Dieu est connaissant, informé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en fait, ces trois versets? Et encore une fois, j'insiste sur le fait qu'il y en a d'autres. Il y en a vraiment d'autres. Hein. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a dans le Coran aussi, sur la question de la divergence, des fois le Coran donne la parole à ceux qui sont opposés au Coran, qui sont opposés au prophète, et qui vont avoir des arguments pour dire « Maintenant, en fait, ce que tu dis, ça t'appelles ça révélation. » Mais en réalité, ce sont simplement des poèmes, en fait. C'est une élucubration de ton esprit, de ta passion, etc. Donc, en fait, le Coran fait parler ses propres adversaires. Et ici, dans ces versets-là, on a une référence à la divergence d'opinion, comment la traiter, ou en tout cas, le fait qu'elle existe, qu'elle est... Et surtout dans le dernier verset, elle est très très importante parce que ici la divergence n'est pas, c'est pas comme si le Coran faisait une sorte de constat empirique en disant bon bah voilà, elle existe, il y a divergence. Là non, dans ce dernier verset, je vous le rappelle, humain, si nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, si nous avons fait de vous des peuples et des tribus, c'est en vue de votre connaissance mutuelle. C'est-à-dire que la divergence ici n'est pas simplement un fait empirique et qui s'impose de lui-même, mais rentre un peu dans l'ordre cosmique, j'allais dire, dans le cosmos voulu par Dieu, cosmos dans l'ordre, la question du fonctionnement du monde. Et donc ici, la question, c'est que la divergence, le fait qu'on soit comme ça, qu'on, même sur le même texte, on va diverger dans la compréhension, ben c'est une volonté réalisée. Et ça, c'est quelque chose qui me semble tout à fait essentiel à comprendre, parce que, et pourquoi pas admettre, et en même temps ça fait écho à ce que disait Sulayman Bachardian, c'est-à-dire qu'en réalité, l'idée de se dire qu'il y a une firqa, c'est-à-dire une distinction, ou un groupe qui lui serait sauvé et tous les autres périraient, entre guillemets, on pourrait l'accepter, je pense, au vu de cet éclairage-là, par rapport au fait que le Coran non seulement admet, mais fait de la divergence, pour reprendre un terme qu'on a quand même bien utilisé, les musulmans, fait de la divergence quelque chose de tout à fait assumé, ben je pense que ça met encore plus en relief les propos de Sulayman Bachardian, qui ne sont pas que de lui, hein, il y en a d'autres qui l'ont dit aussi avant, ouais. Mais cette idée-là de dire que, en fait, peu importe, c'est sunnite, chiite, ibadite, ou que sais-je, c'est pas ça qui va compter. C'est est-ce que vous acceptez la divergence? Est-ce que vous acceptez le fait qu'on puisse penser différemment à partir des mêmes sources, ne pas être d'accord à partir des mêmes sources, et pourtant accepter et dire à l'autre, tu es mon frère, tu es ma soeur, il n'y a pas de problème, je ne veux pas te tuer parce que tu dis que le Coran est incréé, ou parce que tu dis que c'est Dieu qui crée les actes, et puis on est des automates. La question, elle est là. Est-ce qu'on accepte? Aujourd'hui, l'autre réflexion qu'on peut faire, c'est que je pense que ce qui tue un peu la pensée, ce qui tue un peu la richesse des différentes écoles, obédience, mouvement, tout ce que vous voulez, et pas seulement chez les musulmans, tout le monde, c'est d'être trop majoritaire. Quand vous écrasez la société par vos dominations, la moindre petite divergence, le moindre petit écart est vu comme un péril. Alors que je pense que la divergence, au contraire, est une occasion d'être toujours au contact du texte et des sources de manière toujours vivante. toujours dans le débat, toujours dans la réflexion. Après tout, pourquoi est-ce que j'aurais raison? Pourquoi? Peut-être que l'autre aussi. Peut-être que moi, je ne vois pas. Peut-être que je sais que j'ai raison, mais il y a quand même quelque chose qui manque dans ma case, on va dire, dans ma case de cheminement. Donc en fait, ici, y a cet aspect-là me semble très important. Et pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que ce qui... quand on voit ce que tu disais tout à l'heure sur la fitna, on vous menace, comment on appelle ça, on remue la fitna comme un chiffon rouge, disant, dès que vous commencez à sortir un peu de ce qui se dit, on commence à crier, ah, fitna, fitna, attention, tu vois.
C'est pour l'enfer.
Au moins. Ouais. Au moins. Ouais. Je pense que quand on fait ça, c'est au parce mieux. qu'on n'a pas l'éthique de la divergence. Et ça, c'est quelque chose dont tu as parlé tout à l'heure. Et dans la pensée musulmane, il y a vraiment un piège là-dessus. Parce que dans la pensée musulmane, vous apprenez, si vous faites des études de théologie, vous allez apprendre, il y a toujours cette sorte de module qu'on appelle Edeb el-Ertilef, c'est-à-dire la bienséance des divergences, le savoir-vivre des divergences, comment dirait-on, l'humanité dans la divergence. Enfin bon, vous voyez un peu le sens. Or, qu'est-ce qu'on apprend en fait? On vous apprend que, regardez les différentes mevehéb, c'est-à-dire les différentes écoles juridico-rituelles, sous implicitement sunnites,
oui.
Pas des chiites, des ibadites, sunnites. Donc les quatre reconnus, hanafites, dans l'ordre hanafite, malikite, shafi'ite, hanbalite. On vous dit, regardez, c'est extraordinaire, regardez, nous les musulmans, on assume la divergence, c'est assumé, c'est, on accepte la divergence, il n'y a pas de problème et tout. Mais... Oui, d'accord, le mais, voilà. le mais, redoutable. Parce que quand on vous dit, mais, en fait, on accepte la divergence, mais pas sur les questions dogmatiques.
Voilà.
On accepte la divergence sur les questions de ce qu'on appelle en arabe le furu, c'est-à-dire les applications, les branches, ce qui vient après. Autrement dit, quand vous faites la prière, est-ce que vous devez vous tenir les mains,
croiser, comme ça, voilà.
Les lâcher, ou est-ce que vous pouvez manger à tel moment ou tel autre quand on jeûne? Des questions de pratique. Alors là-dessus, on vous dit, il n'y a pas de problème. Même si on est rattaché à une école, on peut très bien piocher. Et une fois, on est par exemple malikite, et là, on va dire, ah ben non, là, les hanafites sont mieux, donc j'allais être hanafite. Et puis là, ah, les chaférites, c'est pas mal. Donc, encore, on n'aime pas beaucoup ça. Il faut dire la vérité, on n'aime pas beaucoup ça. Alors, quand on vous dit, Edeb el-Ertilef, en fait, c'est pas vrai. En fait, on vous parle de choses qui nous... Très honnêtement, ça n'a pas beaucoup, beaucoup d'importance. Par contre, sur quoi on attend le Edeb el-Ertilef? C'est sur les questions que tu as soulevées, les questions épineuses. L'être humain est-il libre ou déterminé? Le Coran est-il créé ou incréé? Qu'est-ce que tu as dit? Il y a plein de sujets. Le rapport de l'acte à la foi. L'acte à la foi. Bon, ça, il y a un peu plus d'acceptation parce que c'est un peu plus, j'allais dire, philosophique, donc c'est un peu plus compliqué.
C'est plus abstrait.
Plus abstrait. Le rapport au hadith. Le rapport au khabar, comment on se comporte? Est-ce que dans ma foi, moi, si je décide dans ma foi que les hadiths c'est vraiment anecdotique ou ça vient après, il y en a qui vont très bien l'accepter et il y en a qui vont dire, mais tu mets de côté les paroles du prophète. Alors que là, on pourrait dire, en fait, c'est pas le prophète que je mets de côté. Je remets en doute la fiabilité des textes qui nous disent que le prophète a dit. Vous voyez la nuance? Je suis pas en train de dire que je me fiche de ce qu'a dit le prophète, c'est pas ça. C'est juste que là, ce qu'on me dit, c'est quand même très étrange. Comment le prophète aurait pu dire ça? Et surtout, quand vous étudiez un petit peu, vous faites un peu d'islamologie, c'est très difficile. Alors, j'avais déjà parlé de cet exemple-là, mais il me paraît très important. J'ai lu dans un article universitaire quelqu'un qui traduisait en fait une lettre qu'avait écrite un qadhi, un religieux. On est à la fin vers les années 770, de mémoire. Donc, on est vraiment dans le premier siècle, vraiment au tout premier temps de l'islam. Et cet imam-là, c'était un partisan du ra'i, de l'opinion, donc de la raison. Donc, c'est quelqu'un qui mettait les hadiths, ça ne veut pas dire qu'il n'utilisait pas les hadiths. Ils utilisaient les hadiths, mais après. C'est-à-dire qu'ils donnaient quand même une large marge de manœuvre à leur propre réflexion à partir du texte coranique. Ou même à la réflexion. Et donc, ce monsieur-là écrit une lettre au calife parce qu'il n'était pas content. Il n'était pas content à propos d'un sujet quelconque. Et dans sa lettre, ce monsieur, Al-Ambari, l'imam il s'appelait Al-Ambari, il utilisait souvent des adages. C'est-à-dire qu'il disait, chez nous en Irak, nous disons ceci. nous disons cela. Il disait des adages comme nous on dirait mariage pluvieux, mariage heureux. Un adage en France, voilà. Alors, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que là, la lettre, elle date de 770, de la fin des années 770, pas loin de 780. On a ces adages-là, donc qui sont mentionnés dans la lettre comme étant des adages, des proverbes locaux. On les a entre 50 et 80 ans plus tard. Ils apparaissent où? Dans les Bukhari musulmans. Avec ran ran ran, donc selon machin, selon machin, selon machin, le prophète a dit. Et là, vous avez l'adage qu'on retrouve dans la lettre plus ancienne. Donc c'est un peu, alors, pour imaginer l'adage. Selon, le prophète a dit mariage privé, mariage heureux. C'est-à-dire que... Non, mais vous vous rendez compte? Et ces rapports-là ont été considérés comme des sahih. Ils sont rapportés dans les sahih. Donc en fait, on peut comprendre du coup les gens qui vont se dire si moi j'avais entendu le prophète dire la chose, il n'y a plus de réflexion. J'y vais. Le prophète a dit bon, bah voilà, j'y vais. Mais là, la question, elle n'est pas là. La question, elle est que ce que je lis là, me semble tellement énorme par rapport à ce que je sais par ailleurs, par rapport à mes lectures du Coran, parce que c'est ce que tu as dit tout à l'heure, tu as rappelé les critères de sélection chez les Mu'tazila, il a deux critères de sélection, non contradiction avec la raison, non contradiction avec le Coran. Donc quand vous avez des hadiths qui vont dire des choses, prenons un exemple simple, l'apostasie dans le Coran. Un musulman qui se convertit à une autre religion, ou qui cesse d'être musulman, à partir du moment où il dit « moi je suis plus musulman », d'un point de vue du légal, comme on disait à l'époque, où il y avait les tribunaux charaïques, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'appuie sur un hadith, donc un rapport, une maxime rapportée du prophète, apparemment, dit-on en tout cas, qui dit « celui qui quitte la religion, tuez-le ». Bon. Alors que le Coran prend en charge la question de l'apostasie, vraiment la question de l'apostasie, c'est-à-dire la personne qui était croyante, musulmane, et qui décide de ne plus l'être. Et à chaque fois, même si il y a des imprécations, c'est-à-dire que Dieu va punir, Dieu va s'en occuper plus tard, mais on a des versets qui disent très explicitement que le retour à Dieu, c'est quoi? C'est la mort. Le retour à Dieu, mais aussi le fait de tenir les comptes, donc c'est bien distingué, la mort, mais aussi le fait de tenir les comptes, donc de juger, appartiennent à Dieu. Ça, le Coran, il est très clair là-dessus. Il est très clair. Or, on a des hadiths dans lesquels le prophète il dit « Celui qui abandonne l'islam, tuez-le. » Mais qu'est-ce qu'on fait? Pardon. Hop, c'est mon frère. Donc voilà, qu'est-ce qu'on fait à partir de ce moment-là? Donc la question, elle est là. Cette question, comment est-ce qu'on accepte ces divergences-là? Alors, après, en fonction de la personne à qui vous parlez, l'imam que vous allez voir, il y en a qui vont l'accepter, d'autres qui ne vont pas l'accepter, mais le problème est que, qu'est-ce qui est enseigné dans le Edeb Ertilef? Dans le Edeb Ertilef, les questions dogmatiques, ne doit pas y avoir de différence. Donc quelle est l'implication? Ben, l'implication, c'est que si vous n'êtes pas d'accord, on fait quoi? On fait la guerre. On rentre dans une logique de guerre. Donc aujourd'hui, c'est là où il y a un problème et c'est là où on devrait être capable de dépasser certaines prédispositions qui datent de ce qu'on appelle la charia médiévale, donc la charia qui a été comprise avec les moyens de l'époque. Et là, pour l'instant, on a un peu de mal. Alors on ne vous cache pas, je ne sais pas si vous êtes au courant de nos projets de mosquée mixte, parce que c'est la question de l'Ertilef à ce moment-là. C'est très intéressant de voir les réactions parce que rien que ce matin il y a encore quelqu'un qui a menacé Kaina qui devait être là, mais je sais pas ce qu'elle est. Donc il y a quelqu'un qui a menacé Kaina, enfin, de manière très officielle, enfin officielle, on lui a envoyé un message vraiment menaçant, et d'autres, même s'ils menacent pas, c'est à dire qu'on n'est pas forcément dans la menace, on est dans un rapport où mais vous contredisez les commandements de Dieu. Où? Comment? Pourquoi? Et ça, c'est très difficile. Ça, c'est très difficile. Donc, voilà. Alors, pas non plus passer plus de temps que ça. Mais en tout cas, voilà, j'essaye d'avoir un éclairage. Et juste pour finir, parce que ça aussi, maintenant que j'y repense, juste me permets de prendre quelques minutes. pour revenir à cette fameuse question, parce que quand on parle de Edeb el-Ertilef et qu'on parle de Mu'tazila, on revient à la sempiternelle question de la Mehna del Ma'moun, etc. Cette question-là, cet épisode-là, était largement gonflé, beaucoup plus que ce qui n'a été historiquement. J'en veux pour preuve, c'est que le grand héros, dans ma bouche je dis ça avec un peu d'ironie, mais enfin, le grand héros qui était Ahmed ibn Hanbal, que je sache, n'a pas été tué, n'a pas été dépecé vivant, ou, comme ça a été le cas de certains, n'a pas été découpé en deux, ou n'a pas été égorgé au pied de la chair, comme c'est arrivé à certains. Donc c'est Ahmed ibn Hanbal, selon des récits, alors qu'ils ne sont pas appréciés par la majorité, Ahmed ibn Hanbal, quand il se retrouvait coincé, il a fini par dire que oui, le Coran a été créé, selon des sources très minoritaires. Mais ce qu'on garde de lui, c'est que ça a été un grand résistant, un grand héros. Et autre chose, c'est que celui qui va, parmi les trois califes, Al-Ma'moun, Al-Mu'tasim et Al-Waithaq, les trois qui ont fait la, qui ont gardé la Mehna, on appelle l'inquisition, mais j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça. Parce que la question, c'était quoi? C'était d'imposer aux puissants de l'État, aux juges, ceux qui détenaient la vie des gens, à la limite, entre les mains, c'était de leur imposer de reconnaître que le Coran était créé. Il ne s'agissait pas d'aller dans les villages, d'aller voir le métayer ou d'aller voir l'agriculteur et lui dire à partir de maintenant, tu vas dire que le Coran est créé. C'était pas ça. Il n'y a pas eu des villages brûlés, il n'y a pas eu de persécution en masse pour que le moutazilisme devienne la religion de tous. Il y a eu les qudhat, c'est-à-dire ceux qui étaient les juges, ceux qui étaient en poste de pouvoir, les hauts fonctionnaires, devaient reconnaître que le Coran était créé. Il y avait une volonté derrière délibérée de mettre peut-être une distance par rapport aux muhadithoun, aux gens qui pesaient et qui pesaient sur la population, les gens des al-hadith qui utilisaient les hadiths et qui, eux, avaient un poids considérable dans la population. Il y a eu une tentative, après on peut les interpréter de manière comme on veut, mais en tout cas ce qui est factuel, c'est que cette question, cette épreuve, c'est le sens du mot mehna, cette épreuve, elle a été imposée aux puissants, pas à tous. Et elle a été limitée dans sa portée. El-Wethar, donc celui qui a été vraiment le plus enthousiaste sur cette question-là, lui a effectivement tué un opposant qui fomentait une rébellion, El-Khuzai. Donc j'ai oublié le nom parce qu'il y a beaucoup de Khuzai en fait. Hein. Mais en tout cas, celui-là, il a tué lui-même avec son épée. C'est-à-dire qu'il a demandé son épée, il l'a tué, alors que le Qavi Mu'tazili, qui bien sûr après a été... chargé de toute la haine, qui s'appelle Ahmed ibn Abi Douad, lui, nous rapportait Tabari, a tout fait pour essayer de le sauver au maximum, pour essayer de dire non, prison vaut mieux, etc. Il a tout fait pour le sauver, mais au final, le calife a dit non, je vais le tuer. Il a demandé son épée et il l'a tué de ses propres mains. Et cet épisode-là, pourquoi il n'est pas connu en fait? Parce qu'on retombe sur la question politique. Après les trois califes de la fameuse inquisition, entre guillemets, bah, les Abbasides, ils sont restés au pouvoir. Même si les Abbasides se sont un peu rabibochés avec les Hanbalites et avec les Mouhadithoun. Et donc, qu'est-ce qu'il a fallu faire? Il a fallu nettoyer un peu le nom des Abbasides. Et donc, non, un calife Abbaside ne pouvait pas avoir fait ça. Ne pouvait pas avoir condamné les Mouhadithoun. Il fallait nécessairement que ce soit un vicieux qui vienne susurrer dans l'oreille du calife. Et donc, dans ce cas-là, ça a été Ahmed ibn Abi Douad, comme ça a été Bech el-Mer ici et d'autres. Mais ça n'a pas été... On a voulu un peu sauver les califes parce que c'était des califes abbassides. Même s'ils étaient derrière la Mehna, c'était eux qui ont décidé. On a voulu sauver les califes et on a chargé les Mu'tazilites et au même coup, on a mis les Murjites. Bech el-Mer ici était un Murjite et pas du tout Mu'tazilite. Des fois, ils pouvaient avoir accord, mais là, en l'occurrence, non. Sauf sur le fait que Béchir disait que le Coran était créé. Et donc, on les a chargés, eux, Ahmed ibn Abi Douad et Béchir, pour dédouaner les califes abbassides parce que c'était encore la dynastie qui régnait. Donc après, dans l'histoire, on se retrouve aujourd'hui. Cette question-là, elle s'est arrêtée, la Mehna s'est arrêtée en 848, un truc comme ça, avec le Mutawakkil quand il est arrivé au pouvoir. On est en 2019. Et on a encore cette accusation, dès que vous parlez de mutazilisme, ah mais, oulala, c'était des intolérants. Il n'y a rien à voir avec les massacres qui ont été commis plus tard, ou les persécutions systématiques, où vraiment là, il y a eu des persécutions de communautés entières, de villages, etc. Donc je vais m'arrêter là, pour laisser qu'on échange tous ensemble.